Et on va, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu. À la fin, je donnerai quelques annonces qui vont concerner chacun d'entre nous. Mais avant, on va continuer notre méditation sous le psaume 23. Nous sommes rendus maintenant au verset 5. Et dimanche après dimanche, nous découvrons tous les soins que Dieu veut prodiguer à chacun de ses enfants, autrement dit, chacun de ses brebis. Et nous lisons ensemble psaume chapitre 23 et le verset 5. Ce passage, ce verset qui va nous intéresser, nous lisons ensemble. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ah, j'aurais aimé entendre un amen. Quand on lit des passages, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, je lis « Tu dresses devant moi une table », mais de quelle table David veut-il faire mention ici ? Moi, quand vous me parlez de dresser une table, forcément, et je pense que je ne suis pas le seul, je pense à une table qui est dressée parce qu'il y a un bon plat qui se prépare. Excusez-moi, je vous chatouille un peu à l'aube ou à la veille de ce temps de jeûne et de prière. Mais moi, quand on me dit « tu dresses une table », je pense à un repas, me convier à votre table. « Joël, attends, on dresse la table, hein, et puis après tu viens. » C'est ça. Et je me demande si quand David, il a écrit ce psaume, ce merveilleux psaume, je me demande si il ne faisait pas allusion, quand il parlait de dresser la table, s'il ne faisait pas allusion à ces hauts alpages que l'on retrouve dans les hautes montagnes, ces plaines verdoyantes. Rappelez-vous, dimanche dernier, on avait parlé que le Seigneur nous aidait, nous accompagnait lorsqu'il fallait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais là, on a changé de décor. Là, maintenant, nous sommes là à venir dans les alpages, dans les hautes plaines, là où il y a du vert et gras pâturage. Et je crois que là, certainement, David fait une allusion à cette nourriture que les brebis allaient trouver sur ces hauts alpages. Toujours est-il, je constate avec vous, quand je lis la parole de Dieu, que le Seigneur à maintes reprises, écoutez bien, le Seigneur à maintes reprises a pris plaisir à pouvoir dresser une table pour les siens, pour ceux qui lui appartiennent. Et je voudrais juste vous donner quelques exemples parmi tant d'autres. Quand je pense, par exemple, pour donner un premier exemple, quand le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte, ils ont connu la liberté, mais il leur fallait traverser le désert. Et au beau milieu de ce désert, Dieu, à plusieurs reprises, a fait jaillir l'eau du rocher. Au beau milieu de ce désert, réellement, Dieu a dressé une table, puisqu'il leur a donné la manne. Dans un des psaumes, il nous est parlé du pain du ciel, le pain des grands, parlant de la manne. Le blé du ciel, une autre version, ou un autre verset l'exprime. Et mieux encore, Dieu, miraculeusement, a fait pleuvoir des cailles pour qu'ils soient nourris en abondance au beau milieu du désert. Est-ce que ce n'est pas une table qui a été dressée ? Et pourtant, c'est le temps qui nous manquerait. On pourrait lire ce passage où le peuple était quelque peu incrédule devant Moïse. Et ce peuple a posé la question à Moïse, mais Dieu pourrait-il dresser une table au milieu du désert ? Oui, mon frère, ma sœur, Dieu peut dresser une table au milieu de ton désert. Autre exemple, on le trouve maintenant dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. On voit un Seigneur Jésus qui, lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était pour apporter la vie, dans le vrai sens du terme. Et les gens n'avaient pas peur de pouvoir le suivre même dans les déserts, pour écouter ce qui sortait de sa bouche. Et puis la Bible nous raconte dans l'un des évangiles, dans plusieurs évangiles, qu'à un moment donné, Jésus prend conscience qu'ils sont là dans un lieu désertique et se tournant vers ses disciples, commence à leur dire « il faut nourrir cette foule ». Mais à ce moment-là, il n'avait que 5 pains et 2 poissons, vous connaissez cette histoire mieux que moi. Et le miracle de Dieu et l'amour de Dieu a fait que Dieu, à nouveau, a dressé une table au milieu de ce lieu désertique. Et Jésus, après avoir rendu grâce, multiplia ses 5 pains et ses 2 poissons. Et avec ses 5 pains et 2 poissons, des milliers de personnes ont pu être nourries. Vous croyez qu'il n'est pas capable de vous nourrir ? Il multipliera l'abondance pour vous. Il suffit d'y croire. Un autre exemple aussi où je vois que Dieu, littéralement, où le Seigneur Jésus a dressé une table, alors là, c'était, en effectif restreint. Il attendait, c'était après sa résurrection, il attendait ses disciples qui venaient de vivre une pêche miraculeuse. Et Jésus les attendait sur le rivage du lac de Galilée. Et la Bible nous dit que Jésus avait préparé au menu du poisson grillé avec du pain. Ah, ça vous dit rien ça? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Quand le Seigneur prépare le poisson, on pouvait aller dans tous les grands restaurants du monde, de ce bas monde, rien n'est égal à la nourriture que le Seigneur offre. Et Jésus leur a dit, venez manger. Jésus nous convie à notre table. Ce matin, il nous convie à sa table. C'est pour cela que ce moment où la parole de Dieu est prêchée, il faut se disposer parce que c'est bizarre. C'est à ce moment-là où on est agité. C'est à ce moment-là où l'ennemi essaye de nous donner à partir, à sortir. Mais il sait pourquoi. Parce qu'il y a une bénédiction. Il y a une table qui est dressée. La parole de Dieu a le pouvoir de nous fortifier, de nous régénérer par une parole. Il est capable de vous relever. Par une parole ce matin, il est capable de vous donner du zèle, de la force pour marcher et marcher jusqu'au bout du voyage. Ce jour-là, Jésus a dressé une table. Et après avoir mangé, il a fallu qu'il règle son contentieux avec notre ami Pierre. Et devant le reste des disciples qui étaient présents, Jésus a prouvé qu'il avait bel et bien pardonné Pierre. Mieux encore, il l'avait réhabilité dans sa mission d'apôtre. Vous savez, quand Jésus il pardonne réellement. Nous, on a l'impression de pardonner, mais c'est pas ça. Allez, je ferme la parenthèse. Vous voulez un autre exemple? Des tables, il y en a. Et j'ai gardé, bien sûr, le meilleur pour la fin. Le dernier exemple que je voudrais placer devant vos yeux est de loin le meilleur. Car un jour, Jésus a dressé une table devant toute l'humanité entière. Jésus, il y a 2000 ans de cela, a dressé une table en face de ses adversaires. Le monde des ténèbres était présent à ce moment-là. Le diable se réjouissait parce qu'au beau milieu de deux brigands se trouvait Jésus, le juste, celui qui n'avait point péché. Les pharisiens étaient devant, moquant, raillant le Seigneur. S'il est véritablement fils de Dieu, qu'il descende. Les adversaires étaient présents ce jour-là. La nature elle-même s'est voilée. La Bible nous dit qu'il y a eu cette pénombre, ces ténèbres qui se sont abattues sur la terre pendant 3 heures. Et ça n'a rien à voir avec une question d'éclipse. Des choses surnaturelles, miraculeuses se sont produites à ce moment-là. Parce qu'une table se dressait aux yeux. Alléluia de l'adversaire et devant chacun d'entre nous. J'imagine notre ami Jean qui était là, certainement dans les larmes. Que dire de Marie qui était là? Tout le monde était là. Il voyait la douleur de celui qui laissait son sang couler. Mais il n'avait pas encore vu qu'une table était dressée. Il y a un texte que j'aime beaucoup de l'Ancien Testament et c'est le prophète Ésaïe. C'est à juste titre qu'on dit que Ésaïe est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Et nous lisons Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. La vérité suivante, ce sont des paroles prophétiques. S'il vous plaît, je vous laisse le temps de le chercher. Lisez-le avec moi. Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. Déjà, c'est révélateur uniquement de ce qu'on lit là. Parce que Jésus a été crucifié sur un mont qu'on appelle Golgotha. Et Golgotha veut dire lieu du crâne. Il y avait comme un monticule et les Romains avaient l'habitude de pouvoir crucifier leur pire brigand sur cette colline. Et sur cette montagne, la Bible nous dit un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, que fait le Seigneur? Il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car quoi? L'Éternel a parlé. Et ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Il avait déjà dit depuis le jardin d'Éden que la postérité de la femme écraserait la tête de Satan. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Le Seigneur, ce jour-là, a dressé une table pour chacun d'entre nous. Et ce passage nous parle eh bien, de ce festin de mets succulents que Dieu a dressé devant nous et qui eh bien, nous donne à avoir tout ce dont nous avons besoin, qui nous permet d'accéder à tout ce dont nous avons besoin. As-tu besoin d'une victoire ce matin ? Dieu te l'accorde. Parce qu'il y a 2000 ans de cela, eh bien, tout a été accompli. C'est pour ça que Christ s'est décrié, tout est accompli. Tetelestai. Tout est accompli. Il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à retrancher. Je disais mardi dernier, en parlant des fausses doctrines, qu'il y a maintenant un nouveau mouvement. Une femme est apparue dans un groupe de prière, ils étaient quelques-uns, et puis cette femme, elle a commencé à citer certaines paroles de la Bible, et puis les gens qui étaient là présents, vous voyez, la puissance de l'aveuglement, l'ont reconnu comme Jésus tout à nouveau incarné. Et il est question dans ce mouvement, que je peux dénoncer, c'est l'église du Dieu Tout-Puissant. Les dirigeants disent que la Bible, il faut la rejeter. Et finalement, l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est incomplète. Il faut maintenant la parfaire. Et elle est parfaite au travers de cette femme, eh bien, qui s'appelle Liang, et qui, soi-disant, est le Christ incarné. Mais tout ça, Dieu nous l'a déjà annoncé. Il a dit, des faux Christs se lèveront. N'écoutez pas, n'y allez pas. Pourtant, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces adeptes de cette secte, il y a un seul évangile. Et quand bien même un ange nous annoncerait un autre évangile, eh bien qu'il soit anathème, nous reconnaissons la Bible formelle et l'œuvre de Christ est parfaite. Parce qu'il n'est pas un homme, eh bien, pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a fallu que le salut vienne du ciel. Et Jésus s'est incarné, il est venu parmi les hommes. Et au travers de cette table qu'il a dressée, vous avez compris que c'est une table spirituelle, eh bien Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. Ce matin, Dieu t'accorde la vie éternelle. Il te donne la consolation. Il te donne la guérison, la délivrance dont tu as besoin. Il te donne la joie et l'allégresse. Combien de chrétiens sont tristes ? Alors, peut-être devant les frères et sœurs, on fait bonne figure, mais dès qu'on sort, eh bien, tac, on enlève les masques. Et on commence à égrener, eh bien, notre triste vie. Mais le Seigneur veut changer notre tristesse en joie ce matin. Et nous convie à notre table. Il veut t'apporter aussi la paix et le repos. Il veut que tu puisses recevoir la victoire sur tous tes ennemis. Il veut te donner le bonheur et la grâce. Dimanche prochain, on verra la conclusion que David, parce qu'il aurait pu en continuer à énumérer les soins du bon berger, mais il faut qu'il finisse. Et il dit au verset 6, bien dans psaume 23, verset 6, mais oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il ne peut pas dire autrement. Il avait besoin de résumer la grâce de Dieu qui te tient, mon frère, ma sœur. Tu crois que c'est toi ? Oh, j'en peux plus. Mais c'est Dieu qui te tient. Tu es là venu ce matin, c'est le Seigneur qui t'a tenu et qui t'a amené ici, comme moi-même d'ailleurs. Jésus sur la croix s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli pour que nous soyons plus que vainqueurs ce matin. Dans la table spirituelle que Dieu, notre divin berger, a dressée devant nous, il y a tout ce dont on a besoin, toutes les provisions dont on a besoin. Il y a du lait, il y a du pain, et c'est l'image de la parole de Dieu. Tu t'attends à Dieu, mais tu refuses la nourriture qu'il place devant toi. Désirez comme des enfants nouveaux, nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. On attend un miracle, peut-être venant d'un quelconque ange. Et le miracle se passera quand tu décideras tout à nouveau à revenir dans la parole de Dieu et laisser le bon berger te parler, comme il le faisait autrefois. Dans la table spirituelle du Seigneur, il y a tous les aliments qui vont nous aider à affronter nos journées. Nos journées qui sont parsemées aussi eh bien, de quelques épreuves. Allez, qui ce matin n'a jamais vécu une épreuve ? S'il vous plaît, levez la main pour que directement après le culte, je puisse avoir un entretien avec vous. Et mieux encore que je puisse prier pour vous parce que ce n'est pas normal. Quand je lis dans le livre de Job, le Seigneur qui dit « Le sort de l'homme sous la terre est celui d'un soldat ». Il n'en était pas ainsi au départ, mais à cause du péché qui est venu, eh bien on a des luttes et des combats. Et puis on a aussi maintenant, enfant de Dieu, eh bien un ennemi sûr qui fera tout pour nous décourager. J'ai mis là sur mes notes l'exemple du prophète Élie, cet homme qui arrivait à faire descendre le feu du ciel. Cet homme qui, par un mot, a pu arrêter la pluie pour que durant 3 ans et demi, eh bien, il ne pleuve plus. Mais ce même prophète, cet homme de Dieu, c'est le cas de le dire, à un moment donné connu le découragement et sous se jeûnait, demandait qu'une seule chose, la mort. Est-ce qu'un chrétien peut connaître la dépression? Je dis oui. Est-ce qu'un chrétien peut connaître les moments difficiles? Je dis oui. Mais lui, pour lui aussi, une table a été dressée. Un ange est venu du ciel et lui a donné aussi à côté de lui de une cruche d'eau avec des pains de raisin. Avec cette force-là, parce qu'il a mangé. Il aurait pu refuser. Il y en a qui s'entêtent. Ah non, je reste dans ma souffrance, dans ma douleur. Et puis d'ailleurs, même Dieu ne me comprend pas, etc. On fait de l'enfantillage devant le Seigneur. Et on a besoin de grandir. Et si le Seigneur nous dit « mange », il faut manger. Comme le médecin, il est là, il dit « il faut que tu manges, il faut que vous mangez, monsieur ». Il dit ça au patient pour que tu reprennes des forces. Et c'est un acte de foi qu'il faut faire. Et il s'est mis à manger. Et avec la force que lui accorda cette nourriture, et comprenez bien que c'était plus que des vitamines, c'était quelque chose qui venait du ciel, Élie a pu marcher 40 jours et 40 nuits, j'ai envie de dire sans s'arrêter, parce que Dieu lui avait fixé un rendez-vous là-haut sur la montagne. Voici la table. La table est dressée en face, devant nous, mais aussi en face de nos adversaires. Il y a une autre version qui dit « en présence de nos adversaires ». Comme pour nous rappeler que la présence de nos adversaires, quels qu'ils soient, ne peut en aucun cas empêcher Dieu de nous bénir. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Le démon peut être là, le diable peut être là, à nous menacer comme il veut, en long, en large. Frères et sœurs, ça n'empêche en rien à ce que Dieu puisse vous bénir. C'est une question de foi et c'est une question de regarder au Seigneur plutôt qu'aux circonstances. Regardez ce qu'il est dit, comme promesse que Dieu peut-être laisse à quelqu'un ce matin, Job chapitre 36, c'est le verset 16. Job chapitre 36, verset 16. Il te retirera aussi de la détresse. C'est peut-être pour quelqu'un ce matin, certainement. Pour te mettre au large et en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Dans ta souffrance, dans ta difficulté, Dieu veut également dresser une table devant toi et même en présence de tes adversaires. Alors, frères et sœurs, quand nous sommes découragés, quand nous sommes attaqués par l'ennemi de nos âmes, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'arrêter peut-être de regarder aux circonstances négatives, mais commencer à regarder à Christ et aussi à la table que Dieu a dressée pour nous afin que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais il poursuit David et il dit, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en période surtout estivale, les brebis sont assaillies par différents insectes. Et entre autres, il y a la mouche nasale. Cette mouche, elle va repérer chez la brebis juste l'endroit où se trouvent ses narines. La mouche, elle arrive au niveau des muqueuses humides, des narines de l'animal, et clac, en quelques secondes, j'ai envie de dire, il pond ses différents œufs. Ces œufs qui, par la suite, se transforment en larves. Oh, il suffit de quelques jours. Et ces larves remontent dans le nez, littéralement, de l'animal. Jusqu'à même, excusez-moi, je vais entrer dans les détails, jusqu'à transpercer les chairs. Au point de créer des infections et puis aussi des douleurs atroces pour l'animal. Et on constate que certains animaux commencent à foncer sur les arbres, commencent à se frotter le bout du nez, parce que ça leur démange de l'intérieur. L'animal ronge. Il y a même des animaux qui finissent par tomber aveugles. Et même au départ, les brebis, les troupeaux, quand ils voient cet essaim de mouches arriver, les mouches nasales, ils commencent à prendre la vol. Il y a même certaines brebis qui commencent à secouer leur tête comme ça, constamment, constamment. De loin, on dirait, mais elle est folle celle-là ou quoi? Mais non! Elles font tout pour essayer d'éviter ces mouches et d'éviter que ces mouches pondent sur elles. Alors vous avez compris, il y a bien sûr un enseignement pour nous ce matin. Les mouches, elles représentent quoi? Les mouches, elles représentent nos inquiétudes. Elles représentent nos soucis que nous entretenons. On les laisse parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on dorme. Et peut-être on dort épuisé. Mais quand on se relève, on reprend nos soucis. Les soucis, c'est aussi, on peut le dire quelque part, eh bien, nos mauvaises attitudes. Ces mouches sont également, excusez-moi, eh bien, également nos, et certainement l'image de nos mauvaises attitudes, nos mauvais sentiments, nos mauvais ressentiments, qui finalement sapent notre joie, qui sapent eh bien, notre paix. Parce que quand on a des choses comme ça dans le cœur, on ne peut pas être en paix, ce n'est pas possible. Les mouches sont aussi l'image des mensonges du diable, qui vient, j'ai envie de le dire, parasiter notre esprit. Car vous savez, le diable, il sait très bien que s'il réussit à tromper notre esprit, il n'est pas loin de dominer sur tout le reste de notre être. Oui ou non ? Quand le diable est venu, il a dit « Quel costume je vais mettre ? Le costume du lion ? Le costume du serpent ?» Non, il a dit « Non, il est très rusé le diable. Il a pris le costume du serpent pour venir subtilement dans le jardin d'Éden et pour s'attaquer à eh bien, la femme, premièrement, pour lui dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est subtil, hein ? Et son seul objectif était d'abord de convaincre l'esprit eh bien, de cette femme. Et après, c'est une question de temps. Quand il a fini de convaincre la femme, oui, quand tu vas prendre ce fruit, tu vas être comme des dieux, etc. Comme Dieu, voilà. Et quand eh bien, cette femme a ingurgité ce mensonge de la part de l'ennemi, c'est une question de temps. À un moment donné, la Bible ne nous précise pas, mais c'est pas tout dit que du jour au lendemain, elle a pris le fruit. Peut-être que ça a duré quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais à un moment donné, elle a tendu la main et elle a arraché le fruit. Et ça a été le début de la fin. Elle en a donné à son conjoint, l'homme. Et ensemble, ils ont introduit le péché. Parce que les conséquences sont toujours démesurées. Ce péché a atteint l'humanité entière. Qui est un enseignement pour nous. On a besoin, au contraire, que l'huile de l'esprit, parce que vous l'avez compris, de la même manière, les mouches peuvent aussi être l'image mais des mauvaises pensées que le diable peut venir glisser dans notre esprit. L'huile est pour nous l'image du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Et on a eu raison ce matin de chanter, eh bien, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, ton combat, il est spirituel et tu as besoin de combattre d'une manière spirituelle avec les armes, non pas charnelles, mais spirituelles. Arrête de te battre. Arrête de te battre contre ton prochain, quel qu'il soit. Si Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis, c'est pour qu'on arrête de se battre parce qu'on se fait du mal. Par contre, d'une manière spirituelle, tu as besoin de combattre eh bien, contre les puissances ténébreuses. Et pour cela, tu as besoin d'être renouvelé, d'être oint du Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage, Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire, quoi ? Remplis de l'Esprit. » Une autre version, la version Semeur, dit la chose suivante. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Et on a besoin que le Saint-Esprit nous oigne. Vous avez lu comme moi, tu oins d'huile quoi ? Ma tête. Il aurait pu dire tu oins d'huile mes pieds, mes mains. C'est pas mauvais, mais c'est la tête. Parce que c'est là le centre de contrôle. C'est là où eh bien, notre volonté est actionnée et après permet eh bien, à nos différents membres de pouvoir agir. Tout vient des pensées et on a besoin que nos pensées soient oint, qu'on soit renouvelé par le Saint-Esprit pour considérer une circonstance non pas comme nous on la voit, mais comme le Saint-Esprit voit. On a besoin que le Saint-Esprit nous touche les uns et les autres. L'huile est aussi l'image de la joie. Qui est joyeux ce matin ? Amen. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. La joie de l'Éternel sera ta force. Ce n'est pas étonnant quand on lit eh bien, ce qui peut être les fruits de l'Esprit. Eh bien, on lit dans Galates 5, verset 22, il dit les fruits de l'Esprit, c'est quoi ? C'est l'amour. Mais de suite après, il y a la joie. L'amour va engendrer la joie. Si tu as de l'amour dans le cœur, tu as la joie. Quand on aime, on est joyeux. Quand tu aimes ton frère, ta sœur, quand tu aimes le prochain, quel qu'il soit, quand tu aimes Dieu, tu es joyeux. C'est au contraire lorsqu'on a peut-être de l'animosité dans le cœur, lorsqu'on a de la haine dans le cœur, lorsqu'on est eh bien, en lutte, en combat contre le prochain, On ne peut pas être joyeux, c'est impossible, c'est incompatible. Mais l'amour va engendrer non seulement la joie, mais la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et même la tempérance, ce qui veut dire la maîtrise de soi. Dieu, notre divin berger, il se propose de oindre notre tête. Je prie Dieu, vous savez, demain on va entrer dans ce temps de jeûne et de prière qui va durer plusieurs jours. Et je le dirai tout à l'heure aux annonces, je souhaiterais qu'on arrête toute forme d'activité. Il n'y aura pas d'activité. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de réaliser ce que Marie a fait en temps et en heure. Elle s'est placée au pied du Seigneur à boire les paroles du Seigneur. Il y aura une parole pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui viendront. Il y aura une parole, même pour ceux qui seront empêchés. Si vous êtes d'esprit avec nous, eh bien, le Seigneur sera capable aussi eh bien, de vous bénir. C'est un temps que Dieu met à part. Pour nous retrouver, pour nous rencontrer cœur à cœur et peut-être rectifier ce qui a besoin d'être rectifié comme on l'a vu eh bien, la dernière fois, la houlette du Seigneur va nous redresser, va nous remettre sur les bonnes rails. Et plaise à Dieu que dans ces moments-là, nous soyons tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a une relation de cause à effet. C'est dans la mesure où je vais laisser le Saint-Esprit me remplir que je vais être en retour débordant de son amour, débordant de sa joie, débordant de sa paix, débordant de sa patience, débordant, etc., etc., de tous les fruits de l'Esprit. Ma coupe déborde. La coupe qui déborde, c'est l'image eh bien, d'un homme, d'une femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de l'amour de Dieu. Si vous êtes remplie de l'Esprit de Dieu, c'est que aussi vous êtes remplie de l'amour de Dieu. Cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Un amour qui ne s'enfle point d'orgueil, qui n'envie eh bien, personne. Au contraire, qui se réjouit de la vérité. Voilà cet amour eh bien, auquel eh bien, nous faisons allusion ce matin. Et cette vie débordante, le Seigneur Jésus, qui est également notre bon berger, le désir pour chacune de nos vies. Notre frère, en introduction à la Sainte-Seine, a fait mention de Jean 10. Jean chapitre 10, versets 10 à 11, nous rappelle la vérité suivante. C'est Jésus qui parle, il dit le voleur, parlant du diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il précise, parce qu'il a besoin de le préciser à nos oreilles ce matin, et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut que ta coupe déborde. Que tu sois eh bien, dans cette plénitude, que tu sois eh bien, enrichi, rempli de sa grâce, de sa présence. Vous savez, quand Dieu nous remplit, on n'a plus besoin de rien. Quand la paix de Dieu nous envahit, on n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin de convoiter quoi que ce soit. Jésus nous a tout donné. Un cœur rempli n'a plus besoin d'être rempli. Et Jésus de rajouter et de rappeler, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je termine. En reconnaissant que plus on avance dans ce chapitre 23, plus eh bien, on constate que le Seigneur il a tout prévu pour notre bonheur. Ses soins se multiplient et on peut eh bien, après méditer et se projeter. Rien ne manque, tout a été accompli à la croix. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous a rappelé qu'il a dressé une table devant nous, mais aussi en présence de nos adversaires, sur laquelle eh bien, on peut trouver tout ce dont on a besoin pour continuer notre route. C'est pour cela que quand on comparaîtra devant le Seigneur, on ne pourra lui faire aucune remarque. C'est pour ça que la Bible dit que quand on viendra devant le Seigneur, non seulement on fléchira le genou, mais toute bouche sera fermée. Hein. Il n'y aura pas d'argument qui tienne. Ah mais tu comprends Seigneur, X ou Y, et puis toi-même je t'ai... Parce que tout a été accompli et le Seigneur, il n'a rien oublié. Ah bien dans ces différents aliments, pour que nous soyons, alléluia, victorieux jour après jour. Dieu, notre divin berger, a aussi prévu l'onction de son Esprit Saint pour que nous puissions vaincre eh bien, nos adversaires, mais aussi pour que nous puissions connaître, vivre une plénitude de sa grâce, plénitude de sa présence, plénitude de son amour. Et je voudrais juste terminer par un verset qui doit aussi eh bien, nous aider à pouvoir entrer dans ce temps de jeûne qui va commencer demain. Il y a ce passage qui dit dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 8. Qu'en tout temps, mon frère, ma sœur, tes vêtements soient blancs. Cela nous parle de la purification. Veillez à être saint. Parce que Jésus viendra prendre une église saine, irrépréhensible, sans tache ni ride. Mais veillons aussi à ce que l'huile ne manque point sur notre tête. Autrement dit, que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va nous propulser quand Jésus sera sur les nuées? Qu'est-ce qui va propulser l'Église? C'est le Saint-Esprit. Et on a besoin d'être débordant de la présence du Saint-Esprit. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux psaume. Dimanche après dimanche, nous découvrons, Seigneur, que tu as tout prévu pour que nous soyons heureux et pour que nous puissions vivre, comme l'a dit le psalmiste David, le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. Seigneur, finalement, nous n'avons aucune excuse. Et nous avons besoin plus que jamais de pouvoir apprendre de mieux en mieux, de plus en plus, à te faire pleinement confiance. Tu connais les luttes et les combats, tu connais les épreuves que mes frères ou mes sœurs peuvent vivre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as l'art et la manière de changer le mal en bien. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui est au contrôle. Lorsqu'il y a eu le déluge sur la terre, toi, tu étais sur ton trône. Alléluia, sereinement. Seigneur, et c'est toi qui contrôles nos vies. Nous sommes recommandés à toi un jour. Et tu nous as fait la promesse, au travers d'une alliance que tu as scellée par le sang précieux de ton Fils. Tu nous as fait la promesse que tu serais toujours avec nous, à nos côtés. Et ce divin berger, c'est toi qui nous conduis vers les verts et gras pâturages. Bénis ton peuple. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, nous te prions, te demandons d'une même voix. Seigneur, réforme nos voies pendant ce temps de jeûne. Donne-nous à nous découvrir, donne-nous à nous oublier nous-mêmes, que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir. Que nous te replacions à la première et à la seule place de notre cœur. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous, fais-nous grâce. Moi le premier, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes, besoin que tu me transformes davantage. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Oui, Hosanna, viens Seigneur, viens, sauve, sauve. Fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.